à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission 100% foot. Alors Patrick, évidemment, est à mes côtés, comme à l'accoutumée, et aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel. Alors, je ne vais pas parler à titre personnel parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, peut-être le connaissez-vous, mais en tout cas vous apprendrez à le connaître. Son prénom c'est Rachid. Alors je me permets de dire que c'est un ami d'enfance en même temps, et il est là pour débriefer le football avec nous. Nous allons parler, comme à l'accoutumée, du football national, donc avec Aubagne et ses dernières journées, et ainsi que du football féminin très rapidement sur leur dernière prestation à domicile pour leur première au stade Vélodrome, Orange Vélodrome, évidemment qui s'est soldé sur un fiasco, on peut le dire ainsi. Voilà. Donc, évidemment, commençons donc par la nationale avec Aubagne et leur dernière journée. Voilà, il se trouve que, bon, il y a pas mal de choses à dire autour de cela. Hein, donc, ils restent quand même sur deux nuls. Oui. 0-0 à Valenciennes et un nul, un partout, face au Castelroussin Châteauroux ce vendredi dernier. Bon, plutôt encourageant pour l'instant, on va prendre, on ne perd plus. Et on va évidemment essayer de conserver cette position dans le ventre mou de cette nationale. Et pour ne surtout pas descendre en division inférieure. Voilà, Patrick.
Oui, dire que autant le match nul à Valenciennes était une bonne performance, le match nul à l'extérieur, surtout que Valenciennes était en pleine bourre, ils avaient plusieurs bons résultats consécutifs, donc c'est un bon match nul. Autant à la maison, lâcher deux points contre Châteauroux, qui est une équipe du ventre mou comme nous, comme Aubagne, c'est pas forcément une grande réussite. Mais enfin, ils n'ont pas perdu, alors qu'ils avaient, ils restaient quand même sur deux défaites à domicile, donc c'est plutôt bien. Oui. Et puis un point par-ci, un point par-là, ça te permet de prendre un peu tes distances avec le bas du tableau, où là, cette journée de national, les équipes qui jouent la relégation, la plupart ont gagné.
Oui.
Et y compris contre du haut du tableau, puis il y a Sochaux, il y a Dijon, il y a des grosses équipes qui se sont fait taper, donc QRM, Saint-Brieuc, enfin les mecs ils se réveillent un peu. Et ça te permet, avec ton point, comme le point pris à Valenciennes la semaine dernière, ça te permet d'avoir une petite marge qui te laisse tranquille pour te maintenir.
De relancer l'équipe d'Abdallah, de Kassim, prénom. Oui. Et évidemment, de relancer. Alors, on peut noter l'absence du gardien, le gardien remplaçant qui, évidemment, fait l'intérim et de fort belle manière.
Il a arrêté un pénalty. C'est heureusement, parce qu'ils étaient menés 1-0. Quand il y a le péno, si ça fait 2-0, je ne pense pas qu'ils reviennent.
On ne serait pas revenu.
Et voilà. Et donc, tu es resté. Il t'a sauvé l'équipe. Il a fait un bon match. Mais c'est vrai que la blessure de Gilles, le titulaire, est un coup dur, parce que c'est un bon gardien, solide, expérimenté. Mais là, le remplaçant a fait le boulot. Et cette équipe retrouve un peu du poil de la bête. Je pense que c'était beaucoup dans la tête, parce qu'ils ont fait un très bon début de saison. Ça avançait plus, ils n'arrivaient plus à en mettre un au fond. Et là, c'est un peu revenu. Ils ont marqué pas un beau but, c'est un cafouillage, des contres. Le mec, il est au 6 mètres, le ballon lui vient devant, il tape le dent, il met au fond.
Là, on ne recherche plus la beauté à ce niveau-là. Ouais, on recherche à concrétiser.
Tu recherchais à récupérer un point à la maison et tu l'as fait. Et c'est bon pour le moral, c'est bon pour le mental, et je pense qu'Aubagne est sur la bonne direction pour obtenir le maintien. Voilà.
Bon, avant de rencontrer la prochaine journée, donc vendredi prochain, le 10, le Puy Foot 43, Envelé, ça. Aubagne se déplacera là-bas, donc évidemment qu'on peut parler de statu quo sur des points. Il y a quatre équipes qui ont 30 points, dont fait partie le SCAB, de Concarneau à Caen, passant par le Paris 13.
Oui.
Et donc, au niveau de la différence de but, on se retrouve au 13e, en bonne position.
Oui, tu as quand même 6 points d'avance sur les relégables, 6-7 points. Ça te laisse quand même, à 8 journées de la fin, une sacrée marge. Mais en plus, le Puy-en-Velay, c'est une équipe solide, de milieu de tableau. Ils sont guère devant. Et on sait qu'Aubagne, à l'extérieur, c'est redevenu assez costaud. Donc on peut espérer un bon petit nul, un bon petit résultat qui te, qui te rassurerait pour la fin de la saison.
Eh bien, voilà. Nous les accompagnons de tout cœur avec eux en espérant une belle réussite à venir.
Voilà, et on en parlera la semaine prochaine.
Voilà, Rachid, tu découvres finalement nos premiers dialogues.
Exactement.
Et nous parlons donc du football provençal, en l'occurrence au Bagne, qui est la tête d'affiche du football provençal après l'Olympique de Marseille. Et là, on va dire un petit mot sur les féminines qui ont joué le fameux match dont on parlait au stade Vélodrome, le premier. J'espère pas le dernier, mais en l'occurrence, c'est mal parti. Et malheureusement, une défaite 2-1 face à Montpellier, qui est la lanterne rouge, les derniers de la division féminine, Arkema. Donc, c'est l'élite du football français féminin. Et malheureusement, on n'a pas su justement gagner cette partie. Patrick, c'est parti sur les chapeaux de roue à notre désavantage.
Oui, c'est-à-dire... moi j'y étais, puisque savez qu'ils avaient fait une opération promotionnelle, l'OM, c'est une très bonne idée. Étant qu'abonné, je pouvais retenir ma place gratuitement, donc je l'ai fait, j'étais en virage et tout. Et le stade était avec 40 000, enfin, c'était bien plein.
C'est quand même, Rachid, et... si tu entends évidemment notre propos, tu imagines ça, voir des féminines que nous aimons voir jouer au football, mais 40 000 personnes au stade pour les voir jouer, c'est la première fois.
Et c'était un match entre les 12e, donc l'OM, et les derniers, 16e Montpellier, qui est le record d'affluence pour un match de championnat féminin en France.
Et pas que, j'imagine.
Voilà, l'équipe de France féminine, je crois, a fait des meilleures recettes, mais...
Oui, là, il s'agit de sélection nationale, voilà, mais pas en club.
Mais en club, même les Lyonnaises, 8 fois championnes d'Europe, ne font pas quand elles jouent à Gerland ou elles jouent... au stade des Lumières à Decines, ne font pas des trucs aussi gros. Et moi, je pense que ce qui a quand même plombé l'équipe, parce que le sentiment que j'ai eu, c'est que les Montpellierennes jouer au Vélodrome, ça les a survoltés. Oui. C'est l'équipe qui est dernière. Et c'est c'est le match de ta vie, quoi. Je veux dire, tu joues au Vélodrome, il y a 40
d'autant
000
plus
personnes.
Après,
par contre, les Olympiennes, ça les a, à mon avis, bloquées.
Oh, plus qu'inhibées,
Voilà, beaucoup de passes ratées, de contrôles ratés, de petites erreurs techniques. Tu sentais que les filles, elles avaient les pieds qui tremblaient, quoi. Et ça, c'est parce que tu as une équipe qui est assez jeune. Il y a une partie qui vient de la Ligue 2 l'année dernière, donc qui a peu l'expérience de ce niveau. Et le Vélodrome, c'est quand même impressionnant quand tu es sur la pelouse.
Ça le serait pour nous.
Quand tu visites le stand, moi je l'ai fait, tu es sur la pelouse, tu regardes les tribunes vides, ça fait drôle. Tu es sur la pelouse, tu regardes les tribunes pleines, ça fait autre chose. Et je pense que ça les a, parce que Corinne Diacre l'a dit, elle n'a pas reconnu son équipe et certaines joueuses. Je pense qu'il y en a qui ont eu qui étaient un peu paralysés par l'enjeu.
Déjà, cette première occasion dont tu as bénéficié
Montpellier, malheureusement... Tu fais une grosse erreur, tu prends un but d'entrée...
Au bout de 40 secondes,
voilà, voilà. Et c'est sûrement ça qui t'a plombé, parce que, du coup, c'est là que tu te mets à trembler, quoi. C'est-à-dire, 40e seconde, première minute, tu es mené chez toi. Je pense que peut-être... on en a un peu trop parlé dans les médias, dans les journaux, le match, le record d'affluence en France et tout. Et ça...
Pas transcendé, ça les a inhibés plus que ça.
Voilà, c'est l'impression que j'ai eue, comme des fois quand tu vois jouer l'OM, tu as l'impression que les mecs, ils ont le pied qui tremble, ils ne sont pas en confiance.
On trouve des parallèles avec les hommes qu'avaient les
féminines. C'est ce qu'on a depuis le début de l'année, où les mecs ils font des matchs tellement ce qu'ils font. Et là, j'ai un peu cette même impression que ça paniquait. Ce qui est beaucoup plus logique dans la mesure où elles n'ont pas l'habitude, quoi. Ouais. La plupart ne sont pas internationales et n'ont pas l'habitude de jouer devant 40 000.
Oui, mais je pense qu'il y a une préparation, de toute façon, qui a été faite.
Oui.
Elles ne sont pas arrivées, on va dire, dans les 24 heures au stade Vélodrome. Elles sont familiarisées, je pense, avec le terrain. Donc, je pense qu'elles sont habituées.
Elles sont rapides,
en plus Montpellier dernier au classement alors je sais pas, mais... donc je donne mon avis
c'est légitime et
c'est bizarre.
Moi, ce que j'avais constaté, c'est que l'année dernière, quand elles ont obtenu la montée de Ligue 1 en Ligue 2, elles ont fait une tour d'honneur la dernière journée de championnat.
Fin de Ligue 2 en Ligue 1.
Oui, l'année dernière. En juin l'année passée, en fin mai l'année dernière. Et donc, elles avaient fait une tour d'honneur, applaudi. On était qualifiés, on était second avec deux Hermies. L'équipe, on était qualifié en Ligue des Champions. Le stade était joyeux. Ils ont été ovationnés, c'était très bien. Et j'ai des copains qui sont enfin, au virage, là où moi je suis aux Ultras, donc c'est en bas du virage sud, qui les avaient vus, ils étaient venus saluer la tribune. T'avais dit, elles avaient la banane. Mais elles regardaient partout, elles prenaient les photos, enfin... Tu n'as pas l'habitude de jouer. Mmh. Une chose est de connaître le stade d'un spectateur. Une chose est d'être... Et moi, quand j'étais gamin, j'ai été ramasseur de balles pour un match de l'équipe de France au Vélodrome. Et j'étais sur la pelouse, je donnais les ballons aux joueurs. Et ben, ça fait drôle. C'est impressionnant.
C'est une expérience formidable.
Voilà. Et donc, les filles, je pense que quelque part... Entre faire le tour d'honneur et puis être dans les tribunes et regarder est une chose, être sur la pelouse et prendre un but au bout de 40 secondes, ça doit te mettre un méchant coup de bâton sur la tête. Et c'est l'impression que j'ai eue, honnêtement, qu'elles avaient les pieds qui tremblaient et que tu n'osais pas, quoi.
Alors, ce qu'on peut souligner au niveau football, hein, parce qu'il s'agit de cela, un match de football. Au-delà de ça, on peut noter le but magnifique de Mathilde Bourdieu, pour l'Olympique de Marseille, évidemment. Une de nos meilleures attaquantes, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et bon, au-delà de ça, ça a été très compliqué sur un bloc bas, et ça, nous en parlerons aussi au niveau de la Ligue 1 des masculines.
Ouais.
Souvent, l'OM joue contre des blocs bas où il est très difficile de construire s'il n'y a pas la justesse technique pour y réaliser. Voilà.
Et tu parlais de la buteuse Bourdieu. C'est une qui jouait au Paris Football Club, qui est un des trois gros clubs français de féminin. Ouais. Qui avait déjà joué en Coupe d'Europe, qui a déjà été en sélection, et qui donc, elle, a l'expérience. Et elle, quand elle a eu l'occasion, elle n'a pas tremblé, elle l'a mis dedans.
Ah, je t'invite à voir ce but qui est extraordinaire.
Qui est super. Ouais. Mais voilà, la fille, elle a joué à son niveau.
Oui.
Mais il y a trop d'autres où tu sentais que tu as peur et que tu n'oses pas, tu ne tentes pas la passe, tu ne tentes pas le dribble, tu mets le ballon en retrait pour ne pas perdre le ballon parce que tu es focalisé de ne pas faire d'erreur. Mmh. Et ça, à un moment donné, surtout que tu es mené rapidement, et il faut te lâcher, il faut y aller.
Ça les a désamorcés.
Et c'est vrai que les Montpellierens sont accrochés comme des... comme des arapènes à leur rocher, là, mais elles avaient besoin de points.
Bon, évidemment, ça ne remet pas en cause au niveau du classement. Il se trouve qu'elles sont toujours dans le coup. Elles restent 9e de ce championnat. Il y a la Saint-Étienne, malheureusement, ils ont perdu dernièrement contre la Saint-Étienne. Ça, c'était à Turquan, à domicile.
Oui.
Voilà, malheureusement. Et donc, il faut voir un petit peu la suite.
Oui, tu avais les occasions de te mettre définitivement à l'abri que tu as raté. Ça fait un parallèle avec les garçons, d'ailleurs. C'est un peu la même chose.
On va revenir dans un moment.
Mais je pense quand même que dans des conditions un peu plus calmes, un peu plus sécurisante. L'équipe, elle est quand même costaud, parce que Diarc, elle a son caractère. Elle ne va pas être commode comme entraîneur.
Oh non.
Mais elle a de l'expérience. Et après, c'est un entraîneur, elle fait des choix. Il y a des joueuses qu'elle sort. Et bien, elle sort.
Ah, ça fait partie de la vie.
Ça fait partie. Elle est payée pour ça, faire des choix. Je ne suis pas persuadé que critiquer sur les réseaux sociaux et mettre des tags... je ne sais pas qui, je ne suis pas persuadé que c'est le meilleur moyen de régler le problème et de la faire changer d'attitude.
Voilà,
certainement pas.
Évidemment.
Mais bon, voilà.
Classement, donc, Patrick, pour y revenir, pour enchaîner rapidement. Donc, l'OM est 9e avec 16 points. La Saint-Étienne qui suit 10e avec 12 points, ainsi que Lens et Montpellier qui sont aussi à 12 points, qui ferment la marche.
Ouais.
Voilà, le prochain match, c'est le 22. Voilà, où là, il y a évidemment la réception du FC Nantes, c'est un autre calibre.
C'est une équipe de haut de tableau, mais il faut, tu as 4 points sur les 3 équipes derrière, donc tu auras un barrage et une descente.
Oui.
Donc ça te laisse une petite marge.
C'est pour cela qu'il ne faudra pas la galvauder.
Donc là, par contre, c'est-à-dire que contre Nantes, qui est une équipe de haut de tableau, un match nul à la maison ne serait pas un mauvais résultat. Parce que les autres, il faudra qu'ils gagnent aussi, ce qui n'est pas fait.
Mm-hmm.
Parce qu'on arrive au Money Time où les gros, c'est-à-dire Lyon, le PFC, le Paris Saint-Germain et Fleury et Dijon, se bagarrent et vont essayer de prendre les places pour les qualifs européennes et tout.
Dans les circonstances, évidemment, voilà. Qui sont... qui, on peut se référer à l'OM de l'équipe première,
oui.
Chez les masculins, évidemment, il y a des parallèles là-dessus.
Énormément.
La ligne droite, le money time.
Voilà.
Voilà, donc la première journée, donc à 18h45, le 22, c'est ça, on reçoit Nantes à Turquand, donc à Martigues. Voilà, voilà. Prenez note. Et ensuite, il y aura le 25, un match à Lens. Voilà, et c'est là, je pense que ces deux matchs-là, il faudra les
oui,
les
il faudra
gagner.
En prendre des points.
Voilà, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Terminé pour le football féminin et pour la nationale, on va pouvoir parler de Ligue 1 et évidemment de l'Olympique de Marseille. Voilà, voilà. On va très rapidement parler des différents résultats de cette journée, donc la 28e. Voilà. Ça a commencé par le PSG qui a battu Toulouse 3-1, Strasbourg qui a battu Nice 3-1, Brest qui a échoué à domicile face à Rennes 4-3, Lille, et quel match on va pouvoir en parler, qui a battu Lens 3-0. Angers et Lyon ont fait 0-0, ça aurait pu nous arranger, mais dans l'occurrence, la victoire de Lille ne nous arrange guère. Voilà, voilà. Metz et Nantes ont fait 0-0. Lorient et le Paris FC ont fait match nul, un partout. Le Havre et Auxerre, un partout. Là, il s'agit évidemment de la bataille au couteau pour éviter la descente. Et le maintien, évidemment, qui est de mise. Et on a terminé cette journée, malheureusement, parce que vous savez, la victoire de Monaco de 1 face à nous. Pour ne pas dire le one.
Oui.
Voilà. Donc, je ne sais pas par quoi on peut commencer. Je suis pris par l'émotion.
Oui, dire ce qui est un peu dommage, parce que je regardais après les émissions, mm-hmm. les commentaires, machin, c'est que ce qu'a dit le président, alors il est venu envoyer un message qui était discuté collectivement. Oui, il faut y croire, on a fait un bon match et tout. Mais ce n'est pas faux. Par rapport à certains matchs qu'on a fait, je me rappelle
donc
du match à Brest.
Donc il s'agit de notre président intérimaire.
Voilà, oui, du président intérimaire ouais. qui est venu faire son boulot de président,
ouais, ben ouais.
intérimaire
il
ou pas.
Il était temps.
Et donc le truc, c'est que par rapport à des matchs comme à Brest, comme chez toi contre Lille, comme en coupe contre Toulouse, sans aller remonter jusqu'au match de Nantes en janvier, tu as fait un match correct.
Première chose, on n'a voilà. pas démérité.
Voilà, on n'a pas démérité. Le problème, on se crée des occasions, on ne marque pas. Mmh. C'est-à-dire, on ne marque qu'un but. Et on a des actions, des situations où... Alors, le gardien a fait... Il a été homme du match sur l'équipe et sur Foot Mercato. Mmh. Donc, il a fait un très bon match. Enfin, il n'a pas fait non plus. Ce n'était pas Jésus-Christ. Hein. Il a fait un très bon match, mais voilà. Mais toi, tu as raté les occasions, et eux, tu leur as offert des occasions.
On a déjà permis aux gardiens de nourrir une certaine confiance
voilà.
Sur nos échecs.
Le truc, c'est qu'après, tu leur donnes deux buts, parce que les et deux, oui. c'est des erreurs de défense assez... Alors, le premier, bon, ça va. Le second, quand c'est ton défenseur central qui fait une passe décisive au buteur, c'est gênant, même s'il met un but magnifique. Hein. Le lob, il est magnifique. Moi, je ne critique pas Rouli parce qu'il fait ce qu'il doit faire. Il est revenu, il ferme son poteau et il s'attend à une frappe de mule au premier poteau. C'est ce que logiquement on attendait.
Mais là-dessus, Balogun, c'est un exploit. C'est un but magnifique à la 74e.
Voilà, il te met un lob qui est. Et il ne peut pas le toucher. Il aurait fallu qu'il fasse 2 mètres et quelques pour le sortir. Mais il faut le faire. Techniquement, il faut le faire. Il faut surtout y penser.
Ouais.
Et donc, le but est splendide, mais malheureusement, au départ, parce que moi, j'ai écouté les critiques, j'ai lu la presse, on critique Egan Riley. Alors, il faut dire que Egan Riley, il sort sur blessure après, et quand tu le vois courir sur l'action, tu as l'impression qu'à un moment, il stoppe, il a un problème à la cuisse, il s'est claqué. Hein. Alors, c'est pas de chance.
Et puis même ses qualités de vitesse.
Oui, de toute façon, il est pas. L'autre, il est lancé. Lui, il est dos tourné. Et surtout, il ne s'attend pas. Parce que c'est un corner pour l'OM. Ouais. Un ballon qui arrive en cloche. Mmh. Pavard, il peut le prendre de la tête, le remettre dans l'axe. Bon, je comprends qu'il ne le fasse pas parce qu'il peut craindre un contre et une balle en profondeur. Mais il doit frapper pied gauche et tirer haut, loin devant. en touche ou même dans la surface du même ballon en cloche, je ne sais jamais, non, une erreur.
Vous pouvez parler de mauvais réflexe, voilà. En tout cas, une mauvaise négociation de ballon.
Ah oui,
ce moment-là.
Je ne sais pas pourquoi il met le pied droit. On a l'impression qu'il veut faire un contrôle. Et en fait, il touche le ballon, il envoie en profondeur dans son camp, où l'attaquant, qui est dans son camp, lui, dans l'attaquant, il ne peut pas être en jeu, il est dans son camp Balogun. Il est lancé puisqu'il est face au jeu, et Egan Riley, il est face au mec. Donc il faut qu'il se retourne, et l'autre, il le grille au démarrage. Est-ce qu'il s'est claqué, est-ce qu'il n'a pas pu, tout ça. Il a essayé de l'écarter sur le côté, ce qu'il réussit, puisqu'il est sur le côté de la surface. Après, tu ne peux pas prévoir qu'il allait faire un lob comme ça, aussi non. Parfait techniquement.
Il l'a accompagné comme il a pu, évidemment,
voilà.
Que là-dessus.
Et il a fait, voilà. Et moi, à la limite, j'en veux plus un Pavard, ouais. Serait-ce que par son expérience, champion du monde, deux fois finaliste de la Ligue des Champions, que Egan Riley, qui jouait en Ligue 2 anglaise, et qui en plus est arrivé libre, il n'a pas un salaire, il a un petit salaire, quoi, voilà. Donc je veux dire, c'est pas
il
lui.
Serait malvenu de jeter
oui,
la pierre.
Oui, c'est le remplaçant, et c'est pas lui qui doit être le leader.
C'est le joueur
leader,
d'expérience
quoi.
Qui voilà. Doit donner l'exemple.
Voilà. Et donc, on leur donne un but. Le premier, c'est quand même une série d'erreurs de marquage, parce que moi, tu m'ôtes pas de l'idée que sur le premier, le monégasque Thésée, la Jordan Thésée, ouais. Le Hollandais qui centre. Tu dois être. On avait pris le même but à Paris Football Club quand ils avaient égalisé 2-2 dans les arrêts de jeu. Le mec, il a le ballon, il a le temps de s'arrêter, il regarde et il centre. Il n'y a personne qui vient le gêner, se mettre devant. Et alors après, Golovin est lancé, il arrive à détourner le ballon. C'est inarrêtable pour Rouli. Ah. Comme le lob, c'est pas arrêtable.
Le but de Golovin, évidemment, voilà. À l'origine.
Et c'est un problème de marquage de Golovin, ouais. Mais de Thésée qui centre, d'Akliouche qui fait la passe et qui décale le Thésée sur le côté. Tu as l'impression que les mecs, ils jouent tranquille. Ils jouent l'entraînement.
C'était
un
des meilleurs joues.
Akliouche est excellent. Ah, oui. C'est un super joueur, on le connaît, par l'équipe de France.
En même temps.
Mais à un moment donné, quand tu es à 0-0, on approchait de l'heure de jeu à Monaco, un match essentiel sur la qualif européenne, mais mort dans le ballon, rentre dedans, charge, rentre, enfin, empêche de jouer, quoi.
C'est ce qu'on peut... Ça m'a désolé. Comment ne pas réagir, voilà. Et ne pas être en réaction collectivement.
Et c'est là que moi, si on doit faire des critiques, je fais, c'est que cette équipe manque de leader. On va pas revenir sur le départ de Rabiot et tout. Mais de quelqu'un qui rameute, qui gueule, qui tape des mains, qui dit « Oh les gars, on se serre, on se bouge. » Parce que là, tu as l'impression, quand tu prends les deux buts, allez les gars, tu n'as personne qui réagit. Tu as l'impression que l'équipe, elle est assommée. Et à des moments où il faut dire « on serre », voilà, tu venais chercher un résultat.
On peut parler à titre individuel peut-être de notre vice-capitaine ou capitaine par intérim, je ne sais pas.
Holberg,
qui revenait évidemment d'un périple avec son équipe nationale malheureux.
Oui.
Ils ont donc été éliminés de la qualification de la Coupe du Monde.
Là-dessus, moi, je m'excuse.
Avec deux matchs, évidemment.
Le gars, il est allé jouer, c'est le capitaine de l'équipe du Danemark. Il faut savoir que le Danemark, il se retrouve en barrage parce qu'il leur fallait une victoire chez eux dans les qualifs. Ils font match nul. Ils perdent en Écosse alors que match nul, les qualifiés pour la Coupe du Monde, ils perdent sur un but à la 92e, c'est-à-dire dans les arrêts de jeu.
Difficile de s'en remettre derrière
compliqué.
Cela.
Compliqué. Tu joues la République tchèque. Bon, tu joues en Tchéquie, donc à Prague.
Ouais.
Donc c'est pas commode. Tu arrives deux fois à revenir, tu as égalité, tu as des prolongations. Tu as des occasions, tu les mets pas et tu perds au tir au but avec des mecs qui n'arrivent pas à choper le cadre.
Tu vois se profiler ma question.
Voilà. Oui, est-ce que le mec mentalement, mardi soir, il est éliminé au tir au but après 120 minutes et ayant joué 90 minutes et les arrêts de jeu la semaine d'avant, le jeudi, pour qualifier pour la finale de barrage? Est-ce que le mec, il est physiquement et mentalement en état
prêt
de jouer un match déterminant
avec son équipe de club.
Voilà, avec son équipe de club où il a joué. Tu le remplaces à la 89e, ce qui est une plaisanterie.
Sans implication, je dirais. Non, voilà. Non, ça c'est une plaisanterie.
Oui, c'est parce que 89e, voilà, le mec, c'est. Et est-ce que le mec était mentalement et physiquement en état de jouer 90 minutes à fond?
C'était ma question.
Voilà. Ah, voilà. C'est aussi la mienne, je pense que c'est celle à la tête que fait Rachid, c'est sienne aussi. Voilà,
en ayant vu les images, Rachid, voilà, tu as dû te rendre compte évidemment que joueurs quand même pétris de talent, qu'on compte sur nos leaders, qui n'ont pas été capables, et on parle de ce monsieur, d'Holberg en l'occurrence, qui est évidemment physiquement et moralement, qui était
probablement pas à 100%.
Qui était pas à 100%.
Et c'est ça que cette équipe, elle manque de leaders.
Ouais. On en revient à ça.
Moi, je demeure persuadé, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans cette antenne, que Balerdi, en lui filant le brassard, tu lui as donné une responsabilité qui...
supplémentaire.
Qui, un peu importante.
Ah, oui, oui.
Moi, j'ai un problème avec Balerdi et Medina, d'ailleurs, parce qu'ils sont trop cherche-embrouille, je m'engueule, je me chope, le match de coupe contre Toulouse te fait éliminer, tu as raté ton péno. Oui. Tu as raté ton péno, tu vas chercher à te filer avec les Toulousains. Mmh. Mec, c'est pas leur faute. Hein. Eux, ils ont joué leur match, ils ont tiré leur péno, ils les ont mis. Toi, tu as raté le tien. Voilà. Et tu as l'impression que les mecs sont hyper nerveux et qu'ils t'insécurisent. Des fois, tu as cette impression que... Alors, Medina, il fait des matchs moyens.
Mais on peut reconnaître à sa décharge qu'il a fait un bon match face à Monaco.
Oui, il a fait un bon match contre Monaco, mais je pense qu'il a ce côté, ça fait plusieurs fois qu'il se branche et il cherche, il prend souvent des cartons, et c'est un manque de sérénité. Moi, je me rappelle, puisque des fois au stade, avec les collègues, on parle, moi je suis un ancien, donc je me rappelle de Gabi Heinze, l'Argentin qui avait joué à l'OM avec Deschamps comme entraîneur, on a été champion de France. Heinze, c'était un rude, puis il filait. Hein. Mais Heinze, tu le voyais jamais se brancher avec les mecs, se chercher. Au contraire, il cherchait à se faire repousser, à tomber pour avoir un coup franc. Mais tu le voyais jamais venir insulter les mecs.
Ben d'autant plus que quand il intervenait sur un adversaire, jamais il ne venait à l'esprit de l'adversaire de revenir à la charge.
Mais il était correct parce qu'il relevait le mec après lui avoir mis un coup.
Ce qu'on appelle une mentalité.
Voilà. Et là, tu as un peu l'impression, ta défense, elle est fébrile. C'est là que tu vois que Aguerd, il manque énormément.
Oui.
Voilà. Pavard, il est fébrile et je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que... il a fait un ou deux bons mots au début, puis depuis, il est à la rue, il t'a
coûté
des points
et tout. À côté de son
sujet,
totalement.
Voilà. Et là, tu te rends compte que... alors, ce n'est pas la faute d'Abi Bey, hein, que tu n'as plus que deux latéraux, deux hommes de couloir, Ouya et Emerson.
Voilà.
Il préfère mettre Medina parce qu'il recule en troisième axial. Mmh. Mais du coup, tu perds la qualité de passe et de centre de Medina, qui, avec Pechao plus devant, joue mieux. Ouya, il est bouilli. N'oublions pas que pendant la trêve internationale, il est allé aux États-Unis, il a joué deux matchs. Et le mec, comme il n'y a plus de remplaçant, puisque tu as dégagé de manière, à mon avis, un peu débile, Murillo, qui était un joueur fiable et tout. Voilà. Tu n'as plus de remplaçant pour Ouya, donc c'est lui. Le mec lui demande de faire le piston, de faire les allers-retours au bout d'un moment.
Alors, à la base, il est inconcevable de demander à un attaquant, car c'est son rôle, à la base, de jouer dans ce registre-là.
Mais bon, il avait déjà fait à la Juve, il le faisait à Lille,
Mais ce n'est pas un défenseur de métier.
Voilà, ce n'est pas un défenseur de métier. Puis à un moment donné, le mec, quand il joue tous les matchs et qu'il joue 95 minutes... et
qu'il n'y en a personne, justement.
Au bout d'un moment, il est bouilli. Voilà. Et... à gauche, il a préféré mettre Medina, mais la conséquence, c'est que quand Monaco avait le ballon, c'est Pechao qui descendait défendre, qui jouait piston. Et Pechao, tu lui demandes, alors il le fait, hein, c'est un bon mec, hein, mais tu lui demandes de faire les allers-retours. Du coup, quand il est en pointe seul, qu'il doit dribbler, qu'il doit passer et créer une situation... Pechao,
plus adroit qu'à la coutumée. Voilà.
Et oui, parce que quand même, il fait les allers-retours sans arrêt, et donc, c'est un choix tactique qui n'a pas payé. Voilà, disons, c'est malheureux, ça n'a pas payé. Mais c'est un choix qui te coûte cher parce qu'avec la suspension de Greenwood, ton meilleur attaquant, c'était Pechao, qui a fait d'ailleurs un bon match.
Là, c'était la problématique du match, l'absence de Greenwood.
Voilà, et donc Pechao et Guiri ont fait un bon match. Ils se sont bien battus, mais Pechao, il avait... trop de travail défensif à faire, il est trop souvent revenu derrière, au milieu, et résultat, quand tu fais des allers-retours, au bout d'un moment, tu es cuit. Ben,
il en a pâti pour réussir un dribble, voilà. Une passe, un contre. Et malheureusement, voilà. Tous ces efforts défensifs qui n'ont pas servi à rien, ça a été stérile au niveau offensif.
Voilà. Et le problème qu'on a eu, c'est que celui qui a remplacé Greenwood, qui était Ahmed Junior Traoré, a été transparent.
Ben, malheureusement, un peu comme d'habitude, j'ai peur de le dire.
Complètement raté son match. Ouais. Au moins, Noaneri, quand il est rentré à la 70 et quelques, moi, il a essayé. Bon, il est parti dans des dribbles un peu tout seul.
Ouais,
mais
un peu alambiqué.
Il a essayé. Ouais. Et c'est là que tu vois que Greenwood, c'est le seul joueur de grande classe. Hein,
c'est notre
seul
joueur.
Qui a du ballon plein les pieds. Ouais. Voilà. Et donc, tu as eu des joueurs, Aubameyang qui n'a pas eu un ballon propre. Parce qu'après, Monaco, ils ne se sont jamais découverts. Ils sont toujours restés assez bas. Mmh. En fait, c'est eux qui t'ont fait venir. Le second but, c'est un contre. Voilà, sur un corner à toi. Voilà, je veux dire, c'est quand même assez dingue.
Avec une maladresse, malheureusement, qui a fini à une conclusion qui ne nous arrangeait pas.
Voilà, et du coup, il n'a pas été bon. Après, peut-être qu'Aubameyang, il faut dire. Moi, j'aime bien comme mec.
N'oublions pas son âge. Et
voilà. À 38 ans, tu ne peux pas lui demander de jouer tous les matchs titulaires et de jouer 90 minutes. Quoi. Parce que le mec, il a 38. Quoi.
C'est normalement, entre guillemets, il n'y a pas de normalité dans le football.
Oui,
mais c'est un joueur qui doit entrer à 20-30 minutes.
Ou qui doit faire un match sur 3 ou des trucs comme ça. On l'a vu avec Lille. Quand ils ont eu leur avant-centre marocain, la Ingaman, qui s'est fait les croisés à la Coupe d'Afrique, le jour de la finale, il s'est fait les croisés. Ils ont fait jouer Giroud tous les matchs. Giroud, 39 ans, tu ne peux pas lui demander de faire tous les matchs avec les matchs d'Europa League et tout. Le mec, il a explosé. Quand tu l'as fait rentrer contre l'OM, malheureusement pour nous, à 20 minutes de la fin, tu te rends compte que le mec, il est encore là.
Une gestion de ressources humaines, quelque part. C'est d'avoir une intelligence.
Et toi, donc, Aubameyang, qui est quand même bien bouilli, Wea, qui est fatigué, Højbjerg, qui mentalement ne devait pas être au top.
Éprouvé physiquement, très certainement.
Éprouvé. Egan Reilly, qui joue très peu, donc qui manque de rythme et de niveau de compétition. Parce qu'en face, Golovin, Akliouche et Balogun.
Il y avait de quoi faire.
Voilà, bonjour, c'est costaud. Et donc, tu n'as pas démérité, mais tu perds. Une fois de plus, tu perds. Au moins, tu n'as pas été ridicule. Parce que moi, quand on est mené, après le but de Balogun à 2-0, j'ai dit, on va prendre le troisième, on va passer pour des cons. Hein. Voilà. Et heureusement, on s'est battu, on s'est accroché, on est arrivé à mettre un but. Et là... Dans les arrêts de jeu, tu as deux occasions, tu les mets pas.
Gouiri qui marque donc à la 85e minute, il y a deux occasions dans les arrêts de jeu, derrière cela, qu'on n'a malheureusement pas su concrétiser.
Voilà, surtout, j'ai pas compris l'action Aubameyang, pourquoi il se jette pas.
De lucidité, évidemment.
Oui, fatigue peut-être, peut-être fin de match, il est peut-être qu'à la 25e ou la 30e, il le met.
Il
a un ballon qui traîne, il faut se jeter et il est en retard. Je n'ai pas compris comment il avait... Mais tu arraches un match nul, c'est un bon résultat. Voilà.
On ne peut pas lui en vouloir pour cela, totalement cuit.
Le mec, tu lui demandes de le faire un travail, il le fait.
Oui.
De pressing, de gêner les relances, quand le gardien, le ballon, il va dégager, il court dessus pour que le dégagement soit plus rapide.
Il fait un travail de jeune homme, d'un attaquant de jeune homme.
À un moment donné, à la 90e, tu peux comprendre que le mec, à 38 ans, il est bouilli. Quoi. Voilà. Et c'est là que c'est bien beau d'avoir très bien vendu Robinho Vaz, mais que le jeune qui rentrait les 20 dernières minutes, mettre le feu et faire un peu... Des fois, un peu n'importe quoi, parce qu'il était un peu tout fou. Mmh. Mais au moins, ça te mettait la pression sur les défenseurs. Ça les gêne.
L'utilité, justement, de ce joueur qui aurait pu se démontrer sur ce match-là.
Voilà, sur un match, parce que ton deuxième attaquant de pointe, Gouiri, il a fait tout le match. Il a été bon. Mmh. De bon, il y a eu Pekchao, Gouiri, Timber, le Hollandais.
Timber qui a fait une belle prestation.
Qui a fait une bonne prestation. Ouais. Après, bon, les autres, j'ai parlé d'Hoiberg, de Weah, qui était, de Aubameyang, qui était fatigué.
Bon, au-delà des matchs internationaux, dont Weah, etc., Aubameyang, ouais. Je pense que Guiri également était avec son équipe nationale.
Oui, oui, il a marqué.
Et il a marqué.
Mais enfin, voilà, il a un peu plus de réserve parce qu'il avait été blessé, il a moins joué. Mm-hmm. Mais c'est vrai que. Et après, tu as un problème, alors qu'il n'est pas que la faute d'Abi Bey, c'est que tes changements, tu sors Egan Riley parce qu'il se claque, tu fais rentrer Balerdi qui était convalescent, que tu ne voulais pas faire jouer.
Avait-il un autre choix?
Voilà, tu avais sorti Ahmed Traoré qui était transparent, on ne l'a pas vu, on ne sait même pas qu'il a joué.
Ben ouais.
Pour faire... Ici, il a mis une belle frappe en première mi-temps, mais le goal est bien sorti. Pour faire rentrer Nwaneri qui a essayé, mais un peu tout fou. Et à la 89e, tu sors Hoiberg, parce qu'il vraiment, il devait être bouilli. Et je ne sais plus qui tu... Et tu fais rentrer Abdelli.
C'est Abdelli qui est malheureusement
coup,
blessé.
Excusez-moi de vous interrompre. Ouais, Pavard, que Pavard, quand même, c'est international et tout. Je ne comprends pas, moi. Je voudrais bien vous entendre un peu, débattre un peu sur Pavard. Parce que Pavard, je ne sais pas, je ne sais plus... Donc voilà, il a fait quand même des... C'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui.
Eh oui.
Il est habitué aux grandes rencontres. Je sais pas, j'arrive pas à le qualifier, à le cerner, moi, personnellement.
Tu sais ce que Pavard, ça me rappelle ? Ça me rappelle l'époque de Varane, où on disait que Varane, il était bon, parce qu'il jouait avec Sergio Ramos au Real. Mmh. Il avait un patron à côté de lui. Et la saison où Balerdi a été très bon, c'est celle où il avait Mbemba à côté. Chancel Mbemba. C'est-à-dire que le mec, tu lui mets le brassard de capitaine et tu lui dis c'est toi le patron de la défense, voilà, on tremble. Voilà. Et c'est des mecs qu'il leur faut. Et Pavard, que ce soit à l'Inter, où c'était Bastoni à Cherby, les patrons,
ou
que
Bayern,
ce soit au Bayern, c'était Upamecano, le patron et compagnie, ça n'a jamais été lui le patron. C'était un très bon joueur, mais ce n'était pas le chef, ce n'était pas le patron de défense.
Ça, c'est fondamental.
Voilà.
Ce que tu dis.
Et donc. C'est un équipier, mais le patron, c'est Balerdi quand il joue. Là, le patron, tu as mis Egan Riley. Le mec, son cursus, c'est la Ligue 2 anglaise. Alors, c'est un bon petit joueur. Il était international espoir en Angleterre. Il a été champion d'Europe espoir avec l'équipe d'Angleterre. C'est un bon garçon. Il est venu libre, donc ça va. Tiens, il t'a pas coûté.
Il a très peu de minutes dans les jambes avec notre équipe.
Il a peu de minutes de jeu. Il manque d'expérience. Et tu lui demandes d'être celui qui centralise les ballons et relance, d'être le patron de la défense à 3. C'est lui de mettre beaucoup de pression. Mmh. Et Pavard, c'est pas un chef. Tu le mets, lui, à cette place. Il n'aime pas. Enfin, il est pas... Mmh. Voilà. Et après, je pense qu'il n'est pas bien parce qu'il n'est pas bon. Il a fait des erreurs à Porto contre à Lisbonne contre le Sporting. Il te coûte le match alors que tu menais. Enfin, voilà. À Lens, pareil. Alors, il est malheureux à Lens, hein, parce que le ballon, c'est un corner. Il arrive dessus, il le détourne, il le met au fond. Voilà, c'est pas
de
chance.
Oui, mais un homme de cette expérience et de ce niveau doit connaître la remise en cause.
Il avait quand même concédé un pénalty en première mi-temps qui te coûte l'égalisation. Voilà. Et donc... Il a eu des mauvais trucs, il n'est plus titulaire, il a été sifflé par le public parce que tu attends effectivement, comme tu disais Rachid, d'un champion du monde, d'un mec qui était titulaire au Bayern et à l'Inter, qui a deux finales de Ligue des Champions, tu attends autre chose.
Il était là en équipe de France.
Mais je pense que c'est pas le patron, voilà.
Voilà.
C'est pas le patron, c'est pas un leader, c'est un équipier. Et peut-être le fait qu'il sait qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde parce que Deschamps, il a fait une croix, il n'y sera pas, on le sait. Ouais. Voilà, tu as Koundé, Gusto à droite et tu as Saliba, Konaté dans l'axe, donc lui, il n'y sera pas. Le mec, il est peut-être... Et il n'est que prêté et il sait déjà qu'on le gardera.
Frères Hernandez également.
Voilà, il sait déjà qu'on ne le gardera pas l'année prochaine. Mm-hmm. Donc, alors, c'est pas que le mec, il est malhonnête, pas du tout. Je pense qu'il ne fait pas exprès, il aurait pu être bon, il aurait été bon. Mais il n'est pas dans les bonnes dispositions. Et c'est un peu le problème qu'on peut avoir, c'est que moi, je pense que c'est un peu pour ça qu'avec De Zerbi, ça a flopé en janvier, alors qu'avant, on faisait de très bons matchs. Même si tu perdais des matchs, tu jouais. Ce qu'on pouvait reprocher à De Zerbi, tu as trop le ballon, tu tournes trop, et des fois, tu te fais prendre en contre. Mais bon, tu joues. Et d'ailleurs, si on a la chance d'être quatrième, c'est au goal average, on bénéficie de, des buts qu'on marquait sous De Zerbi, où tu avais une des meilleures attaques, où tu cartonnais, tu mettais plein de buts.
On peut en revenir à la différence de but de l'Olympique de Marseille, donc en quatrième position, 49 points, et 18 buts, Monaco, cinquième, avec 10 buts. Donc, donc le call average sera très important.
Et Lyon et Rennes qui sont derrière ont encore moins que nous.
Ben oui.
Donc ça, c'est l'héritage de Zerbi, il ne faut pas l'oublier Lille, non plus.
Lille, évidemment, un point de plus, malheureusement, mais 11 points inférieur.
Donc c'est quand même, à un moment donné, tout n'était pas mauvais avant. Ouais. Et là, actuellement, tu n'arrives pas à en revenir. Moi, ce que je ne comprends pas... Alors après, c'est facile, après le match, de critiquer. Hein. Parce qu'en fait, si tu avais eu un peu de réussite, tu ramènes au moins un nul, on dirait bravo, Beille. Bon, c'est facile de critiquer après. Mais comment tu mets Højbjerg dans l'état physique, mental, où il peut être, même si le mec, c'est un costaud, c'est un bon mec.
C'était mon interrogation.
Comment tu le mets? Alors que tu as des mecs, tu n'essaies pas de relancer Vermeeren, qui a peut-être gros à jouer.
Oui.
Et là, voilà. Après, Kondogbia, il est blessé, entre guillemets, comme d'habitude.
Oui.
Abdelli, il rentre, il joue 5 minutes, il se blesse.
Évidemment, il est parti.
Une mauvaise torsion de la cheville. Hein, c'est un accident. Hein. Mais,
comme bien souvent.
Et donc, tu as l'impression que tout ce que tu tentes, rate, rien ne va. Tout part en vrille. En défense, Aguerre te manque énormément.
Ah là oui, il fait cruellement défaut.
Voilà, mais Aguerre, il s'est reposé pour aller à la CAN parce qu'il avait des problèmes disque au jambier.
Ouais.
Donc tu l'as perdu en décembre. Il a joué la CAN, il revient. Déception de la défaite, même si après il y a eu la combine de dire non, ils n'ont pas perdu, ils ont gagné.
Enfin, c'est encore pour parler.
Voilà,
enfin,
on verra,
ce que ça donnera.
Et là, son objectif, c'est la Coupe du Monde, ce que je comprends tout à fait.
Mm-hmm.
Donc, il s'est fait opérer parce qu'il avait des douleurs. Et du coup, il est out. Et pour revenir fin avril, pour pouvoir être prêt à jouer la Coupe du Monde. Ouais. Mais toi,
on l'a perdu sur cette
fin de saison. Tu n'as pas ton meilleur défenseur, ton patron, le seul qui est un patron en défense, capable de parler en équipe du Maroc, c'est lui le patron. Il parle, il replace et tout.
Ouais.
Et donc, tu as lui qui n'est pas. Tu as des joueurs, comme je disais, tu t'es débarrassé de Murillo. Et du coup, tu n'as plus de doublure pour... Et Murillo joue à gauche. Donc éventuellement, il pouvait faire la doublure d'Emerson.
Ouais.
Voilà, il pouvait jouer des deux côtés. Il faisait ses matchs. Il avait en plus une bonne entente avec Greenwood. Ils avaient l'habitude. Ils avaient fait toute l'année dernière
beaucoup
ensemble.
Beaucoup d'automatisme.
Voilà, Greenwood suspendu. Voilà, Ahmed Traoré, c'est un fantôme. Et tu te retrouves, Pechao, tu le fais jouer plus en retrait, en relayeur. Du coup, tu perds sa rapidité, son démarrage sur l'aile.
Ben, c'est ce qu'on attend de lui. Il se trouve que sa venue dépendait de son talent offensif, en tout cas.
Mais...
Vu le prix, on ne parlera pas d'argent.
Ouais.
Mais effectivement, on attendait de lui des dribbles, des passes décisives, voire des buts. Et c'est un travailleur indéniable.
Oui.
Un travail énorme, mais défensivement.
Mais moi, je pense qu'il fait... Après... Depuis qu'on le voit jouer, ce qui me semble sur Pechao, c'est que c'est pas un dribbleur au sens dribbleur fou, mec qui fait les mecs de Doku, Semenyo, les mecs de Man City, des dribbleurs fous.
C'est évident.
C'est plutôt un mec qui passe en vitesse
et
au démarrage. J'en veux le but qu'on met contre Lille au Vélodrome en fin de mi-temps. Il remet sur ses Timber qui le lance en profondeur, il a pris de vitesse son arrière, et les quelques fois où il a pu être en duel en attaque
sur le premier contrôle
et en vitesse sur Thésé ou sur le stopper droit qui était Kerrer, l'ancien du PSG, l'Allemand Thilo Kerrer, il aura mis le feu. Problème, quand tu lui demandes de reculer, quand tu passes à 3 et que lui devient piston défensif, de descendre et être au marquage d'Akliouche, un truc comme ça, le mec fait les allers-retours. Faut pas s'étonner qu'à la 70e, il n'ait pas le démarrage pour laisser les mecs sur place.
Donc on le trouvait de plus dans un rôle de piston finalement que de milieu offensif.
Ah oui, par moment, oui.
Ah ouais.
Et ça, c'est un peu... c'est un peu... Je rappelle que c'est un truc qu'on avait reproché à De Zerbi.
Oui. Et finalement, qu'on reproduit Habib Bey.
Alors après, Habib Bey, est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a l'effectif pour? Est-ce qu'il a des mecs qui ont faim? Parce que le problème, on l'avait déjà dit plusieurs fois, hein, de l'OM, c'est que quand tu as beaucoup de joueurs prêtés, quand tu as des mecs qui semblent, comme je disais, sur Pavard, mais je peux le dire sur Vermeuren aussi, qui ne seront pas gardés...
Ils sont déjà dans la valse du
voilà,
prochain mercato.
Ils sont déjà en train de chercher notre club. Quoi. Ouais. Donc voilà, tu n'es pas là, tu es absent, tu es moins concerné, puisque tu ne seras pas là l'année prochaine. Et c'est un vrai problème, parce que c'est très inquiétant.
Un problème majeur.
Voilà,
Patrick,
parce que là, j'ai regardé... Hein, j'ai regardé le calendrier des six dernières journées. Alors, je ne vais pas défendre ce qui a été dit par le président Juster, là, Alban Juster, et par Habib Bey, qu'on peut reprendre la troisième place.
Mathématiquement, cela
parce que tu as
possible.
Six matchs. Tu as quand même Monaco, Lyon, Rennes et Lille qui se rencontrent. Il y a des matchs où ils jouent l'un contre l'autre. Lyon, ils jouent à Paris. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, ils vont lâcher des points, les mecs. Mais toi, il va falloir que les six matchs, tu les gagnes. Et alors là, on reçoit Metz vendredi. Si on ne bat pas Metz, de toute façon, on n'a rien à faire en Ligue des Champions. C'est ça. Hein. Ça, c'est clair.
Parce ça part Metz, de ce vendredi. Là, ouais.
Voilà, Metz, ils sont déjà en Ligue 2. Les pauvres. Après, il n'y a pas de y a respect. Les mecs, ils n'ont pas de rond. Ils sont montés en Ligue 2. Ils ont vendu leurs deux meilleurs joueurs pour combler les déficits.
Ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner sur cette confrontation.
Si tu bats pas Metz, c'est pas la peine de, voilà, hein, de dire je veux jouer l'Europe. Hein, même l'Europa League, hein, si tu bats pas Metz. Mais par contre, il y a le déplacement à Lorient après.
Là, ça sent.
Là, ça va être compliqué. Et après, tu reçois Nice, tu vas à Nantes, tu vas au Havre et tu reçois Rennes à la maison.
Et pour terminer, on recevra Rennes. Hein,
alors après, attention, le calendrier dépend des résultats. Rennes, si ça se trouve, ils viennent au Vélodrome, ils sont 5 ou 6 assurés d'être en Europa League et ils sont trop loin pour la Ligue des Champions. Donc les mecs vont venir déjà avec les valises prêtes pour partir en vacances.
On lit dans la presse, Rachid, tu as dû lire dans la presse également le fait qu'on aurait un calendrier plus favorable pour finir cette saison. Oui. Moi, je n'en suis pas sûr, parce qu'il est évident que les autres équipes également, qu'elles soient au niveau du maintien ou des places probablement qualificatives en Europe, évidemment, c'est un combat, il n'y a pas de match facile. Là.
Oui, mais par exemple, c'est vrai quand on dit ça, c'est vrai et faux à la fois, que quand tu as, par exemple, un Monaco-Lille à la 33e journée, tu as des matchs avec, donc je regarde vaguement comme ça, Lyon va au Paris Saint-Germain le 19 avril, tu as... la prochaine journée, tu as des matchs rugueux où tu as des équipes, grosses équipes qui se rencontrent. Donc tu peux dire, eux, ils vont lâcher des points.
Non, même tu, temps, il y a des oppositions.
Même bêtement, Lille, ils vont à Toulouse.
Voilà ce que j'allais
te
dire.
Et je crois qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est Rennes ou Lyon qui va à Toulouse. C'est pas facile.
Non, Rennes recevra Angers.
Voilà, les deux, ils vont jouer le Paris FC à Paris.
Le Paris FC recevra Monaco.
Avec Comboiré, ils sont invaincus depuis deux mois. C'est pas brillant, mais c'est costaud.
Mais on peut dire, il y a match. Les oppositions ne sont pas là pour faire semblant.
Et toi, si tu gagnes tes matchs, il te suffit qu'ils fassent un match nul. Tu as un point de Lille, tu as égalité avec Monaco, tu as Lyon un point et Rennes a deux points. Il suffit qu'il lâche un peu des matchs nuls.
Patrick, permets-moi d'abonder dans ton sens. Ton Rachid, évidemment, comprend que le destin est entre nos mains. Il y a six matchs à disputer. Il va falloir les jouer à fond pour ne pas dire tous les gagner.
Voilà, celui qui est difficile, à mon avis, c'est le match à Lorient.
Oui.
Fait six mois qu'ils sont vaincus. Mais ce matin, je lisais l'équipe, l'entraîneur de Lorient, Pantaloni, et son adjoint, Cahuzac, Yannick Cahuzac, ils sont bons. Ils sont fait le contrat, ils partent.
Mais annoncer cela juste avant la fin de saison.
Oui, ça a filtré. Cahuzac, qui part à Lens, il rejoint le stade de Pierre Sage. Et Pantaloni, il y a un conflit, comme le club a été vendu à des Américains, je ne sais pas quoi, enfin bref.
Précoce, prématuré.
Donc, il a fait savoir qu'il ne prolongeait pas. Donc, je veux dire, tu peux avoir une équipe que ça trouble. Parce qu'eux, ils ne jouent pas une qualif européenne. Hein, ils jouent, Donc, tu as des trucs comme ça. N'oublions pas que Lens Strasbourg joue en Coupe de France la demi-finale.
Voilà.
Que Strasbourg joue en Europa League Conference. Donc, ça, c'est des trucs qui tu laisses des plumes. Strasbourg, tu peux considérer que c'est bouilli. Donc, toi, tu as ta chance, mais Encore faut-il gagner les matchs.
Voilà. Et on peut bénéficier de tous ces éléments que tu viens de citer, mais comme on le dit si bien, il faut gagner les matchs avant
voilà.
toute chose.
Et j'écoutais hier soir mmh. Virage Marseille sur BFM, oui. BFM Marseille, à 19h. Il y avait Alain Soultanien.
Ah, justement, que... es-tu d'accord avec ses propos ?
Ah oui.
Il se rapprochait, en tout cas, de ce que je disais la semaine précédente.
Voilà, Alain Soultanien, que je présente à nos auditeurs, c'était un des kinés du club à l'époque de Bernard Tapie,
de la
finale, de la victoire en Ligue des Champions, des deux finales d'ailleurs, la perdue et la gagnée. Voilà, donc c'est un ancien du club.
Alors, comme toi, je crois qu'il est devenu papy.
Oui.
Ah, voilà.
Et donc, il disait, problème avec cette équipe, c'est pas quoi t'attendre.
Et voilà.
Voilà, tu as perdu contre Nantes, qui va descendre en Ligue 2 chez toi en janvier, tu te le demandes comment. Tu as fait un match, mais nullissime. Et tu vas à Nantes, Et à mon avis, quand tu vas à Nantes, ils seront déjà en Ligue 2, hein, 3 journées à la fin.
Très certainement. Là,
parce que là, ils ont encore... Enfin, je veux dire, il faudrait qu'ils gagnent des matchs, ils ne gagnent pas. Ils sont en difficulté. Ils ont un match en retard, mais c'est à Paris contre PSG. Donc,
la fameuse programmation de ce
match. Oui, de truc. Et donc, si tu veux, est-ce que tu risques pas d'avoir une équipe où les mecs, c'est leur adieu. Enfin, c'est le dernier match, ils s'éclatent, ils jouent en confiance. Tu joues au Havre qui aura peut-être besoin d'un point.
C'est ce que l'on peut craindre en les rencontrant, justement.
Tu reçois Nice qui n'est pas sûr de pas être en barrage, qui risque d'avoir besoin d'un point. Tu as les mecs qui mettent le bus, ils jouent derrière.
C'est ce qui va arriver probablement. Il faut voir le comportement du stade également.
Voilà, et comme tu le dis justement, Franck, moi je suis inquiet de ça.
Eh oui.
On a vu le match contre Auxerre où on gagne 1-0, je ne sais pas par quel miracle. On a vu qu'en première mi-temps, quand les virages faisaient la grève et les encouragements, il n'y avait pas de match. Quoi. Tu ne faisais pas une pince, tu ne prenais pas un risque, tu passais que des ballons latéraux ou en retrait. Personne ne prenait le risque, personne ne tentait. Et c'était,
mais aucune volonté.
C'était même pas hostile.
Ouais,
c'était même pas on les siffle, Non, c'était on n'encourage pas. Ça, c'est compliqué.
Totalement.
Ça, c'est compliqué parce que. Il
ne
faudrait pas qu'on reçoive Metz, que Metz marque le premier, parce que moi, Alors, les vétérans du virage comme moi, on va dire, allez, c'est pas grave, les gars, on y va, c'est Metz, merde, il n'y a personne en face, tu vois. Mais c'est souvent des tribunes latérales que partent les sifflets, les insultes, les trucs, voilà. Toi, tu l'as en travers, mais tu supportes ton équipe.
Et c'est l'effet papillon.
Et attention, alors Metz, quand même, c'est faible. C'est très faible, c'est courageux, mais c'est très faible. Mais on avait gagné 3-0 chez eux. Hein. Mais voilà, donc l'équipe le tournait, on avait gagné tranquille 3-0.
Soyons dans le présent, évidemment.
Mais voilà,
l'opposition
est
fragile.
Parce que si tu les bats en mettant 3-4, après tu vas à Lorient, l'esprit un peu plus libéré, tu as gagné, tu as cassé le rythme des défaites, enfin de l'enchaînement.
Donc le scénario de ce match à venir.
Voilà,
si tu venais,
ça se passe pas bien, le public te siffle, voilà. Comme hier soir, enfin avant-hier soir, je regardais Balerdi qui veut aller saluer les tribunes. Tu viens de perdre, vas-y, petit, laisse tomber, rentre au vestiaire. Quoi. Voilà, arrête-toi, tu vois. Parce qu'évidemment, les mecs, ils ont les boules, ils sont venus, ils ont bu, tiens, tu fais des conneries, tu prends des buts en bois.
Pour faire une parenthèse rapidement, il faut noter également que les supporters marseillais ont eu, pour une centaine ou un peu plus que cela, du mal à entrer dans leur tribune.
Oui, il y a eu des... Alors, on ne sait pas trop, parce que ce qu'on a vu...
Effectivement.
Moi, ce qu'on m'a dit, les copains des ultras, c'est que les monégasques, ils avaient fait béton pour pas qu'on puisse acheter les places sur Internet, pour pas que le stade soit bleu et blanc comme d'habitude. Mmh. Et les supporters, qui étaient donc en virage supporters, ils ont eu des fouilles que même au Portugal, ils n'avaient pas eu.
C'est cela que je voulais mettre en exergue.
Donc, il y a eu visiblement... un truc malsain d'essayer de te chercher la bagarre.
Justement, à générer quelques échauffourées.
Du coup, il y a eu, pendant la première demi-heure, le stade, le virage marseillais, il était amorphe. Quoi.
Ouais.
Il y avait les copains dehors, il
des
était
retenues,
à moitié plein. Voilà.
Ils n'ont pas voulu
mi-temps, la tribune, elle t'a supporté, on n'entendait que. Mais le problème, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné... chez les supporters, enfin moi ce que je vois avec les collègues autour, hein, et encore c'est pas des méchants, hein, c'est pas des fous furieux avec qui je suis, c'est une déception énorme. Tu comprends pas pourquoi à Bruges tu t'es pas battu, tu t'es pris 3-0, tu t'es fait gifler, tu n'as rien dit.
On n'en revient toujours pas.
Voilà, comment tu as pu déjouer, te prendre 5 à Paris, alors ça c'est l'humiliation.
Ça c'était la cerise.
Voilà, donc tu as un contentieux, cette équipe n'est pas sympa, elle ne te plaît pas. Il y a peu de joueurs en lesquels tu te reconnais, il y a trop de turnover. Il y a trop de problèmes. Tu parlais, Rachid, de Pavard. C'est vrai que Pavard, les gens... Moi, je trouve injuste, les mecs, ils le sifflent. Ça va, tu as besoin. Oui. Tu siffleras après, mais... Voilà, quand il rentre, je ne sais plus quel match c'était, il rentre à un quart d'heure de la fin, il se fait siffler. Là aussi, c'était les tribunes. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose, mais...
Sans entrer dans la détestation profonde que certains ressentent par rapport aux enchaînements de match.
Oui, oui,
mais...
oui.
Peut-on véritablement, je ne sais pas, Rachid, as-tu un joueur dans cette équipe à qui tu as beaucoup, comment dirais-je, que tu es attaché, que tu as beaucoup d'estime?
Oui,
ouais, 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 tout à fait.
Ouais, Guiri, moi j'adore Guiri.
D'accord,
moi.
D'accord.
Mon fils aussi, il adore.
Mais qu'on puisse vraiment se dire, allez, ce gars-là, il est avec nous, on est avec lui, quoi.
Ouais,
ça ne transpire pas cela au niveau de l'ensemble des supporters. On n'a pas de joueur phare qui... Ouais. Mis à part peut-être, oui, Guiri qui s'implique bien, oui, Greenwood, parce que c'est notre
Greenwood,
joueur,
c'est le meilleur joueur. Aubameyang, parce que malgré tout,
il est
tout le monde sait qu'il a voulu revenir à l'OM. Il était en Arabie Saoudite, il avait un salaire le double ou le triple. Il a voulu revenir.
Il y a de la ferveur dans ça, ouais.
Voilà, donc lui, tu sais qu'il aime le maillot. Il y a, oui, Guiri, parce qu'il fait des bons matchs.
Ouais, ouais.
Tu te dis que s'il n'avait pas été blessé, peut-être tu aurais fait mieux.
Certainement.
Voilà, mais c'est vrai que. C'est vrai que tu n'as pas de gars. Oui, hein, les gens l'aiment bien.
Ouais,
Rouli était aimé, mais il a fait quelques conneries qui ont un peu refroidi
tout
le monde.
Et ça ne transfère pas sur l'ensemble des partenaires.
Et tu n'as pas une équipe. Ouais. Tu n'as pas une équipe où tu as des mecs à qui tu t'identifies, avec qui. Moi, je le dis souvent, mais quand il y avait en 2004 un Drogba, il a fait un an à Marseille.
Voilà.
Drogba, c'est l'idole absolue. Et au bout de 6 mois, Drogba, c'était Dieu, quoi. Je veux dire, il faisait tout. Mais alors qu'il est resté qu'une saison.
Voilà.
Après, tu l'as vendu à Chelsea.
Mais il est toujours dans notre cœur.
Mais voilà. Mais tu t'identifies comme Bale quand il était joueur. Il faisait la charnière, les deux stoppeurs avec Abdoulaye Meïté et lui et Brahim Mbeni.
Qu'on avait descendu d'un
cran. Qu'il avait descendu. Eh bien, le public s'identifie à Bib. C'est pour ça que.
C'était des gens, justement, qui donnaient cette envie, cette passion.
Voilà,
de
c'est pour ça qu'il est peu critiqué par les virages. Parce que, malgré tout, comme joueur, tu gardes le respect. Tu as des mecs que tu t'identifies. Dimeco à la grande époque.
Par exemple.
Des trucs comme ça. Boli, aujourd'hui, tu n'as pas.
C'est et pas même... le talent brut qui fait la chose, c'est l'investissement personnel et ce que ça apporte.
C'est vrai que Greenwood, c'est la classe, tu vois, qui dit bon, il y en a un qui a du foot, c'est lui, il a du ballon, c'est le seul. Mais Aubame, parce qu'il a voulu revenir, Guiri, parce qu'il se bat et qu'il t'apporte.
Il n'y a plus de fanatisme.
Et puis voilà, et Timber est bien aimé, les mecs disent il est pas mal celui-là, parce qu'il court, parce qu'il se bat, parce qu'il tente. Mais tu as des. Après.
C'est pas être le meilleur que l'on attend de joueurs, c'est de donner tout ce qu'ils ont et générer de l'amour.
Et peut-être il te manque 2-3 jeunes comme il y avait, bon, Bass et Bacola, on les a vendus, et comme De Zerbi avait fait rentrer Mmadi ou des trucs comme ça, qui sont des jeunes du club où le public il est plus sensible, plus sympa. Le mec, le jeune, il a essayé, il a raté, mais il a essayé.
Voilà,
tu encourages.
Nous l'espérons de tout cœur revoir cela.
Quand il te rentre un Vermeeren, un Abdelli, même si Abdelli, c'est un bon gars, quoi.
Il rêvait de venir à l'OM,
Mais quand il rentre, il ne te fait pas rêver, quoi. Après, Abdelli, il a été titularisé un match, c'est la coupe contre Toulouse.
Malheureusement.
Il est passé complètement à côté, il a sorti à la mi-temps parce qu'il était à la rue. Et depuis, il porte ça comme
L'aventure continue, affaire à suivre,
On peut espérer que l'année prochaine, puisqu'il est sous contrat.
Ben, finissons évidemment cette saison de la meilleure des manières.
Ouais.
Rachid, Patrick, merci à vous de votre présence, de votre implication
merci
naturelle.
Merci
que vous
avoir reçu.
Ben, il n'y a pas de
mon
quoi.
Ami.
Voilà.
Et comme on dit, on est chez nous.
Voilà, merci beaucoup.
Et on essaiera, on en reparlera la semaine prochaine, évidemment. On fera le bilan du match contre Metz. Et c'est... Le problème, c'est que c'est très dur de mobiliser les supporters là-dessus. Mmh. Économiquement, la troisième place est essentielle.
Elle l'est. On ne va pas revenir à cela. Voilà. Quitte à choisir donc, entre la troisième et la cinquième parce que ça évite la quatrième place.
Tu espérais un beau parcours en Ligue 1, ne serait-ce qu'une qualif en 16e. Tu espérais ça pour l'honneur. Tu espérais un parcours en coupe, Paris éliminé. Tu as échoué les deux fois. Tu vas pas mobiliser les mecs en disant la troisième place, les gars. Quoi.
Alors, finissons sur les chapeaux de roue. Voilà. De roue. Et nous allons l'obtenir, cette troisième place.
Mais j'espère.
Patrick, merci. Merci à toutes et à tous. À très, très bientôt. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.